Benoît Pierre Guigues de Souza. C'est Guigues de Souza. Guigues, pourquoi Guigues? Parce que Guigues, c'est une des plus vieilles familles d'Ignoise. Quincaillers commerçants, ils avaient aussi, il y avait les Guigues des Chabriers qui étaient sur Manosque aussi, qui faisaient des listes de mariage, la vaisselle, une boutique déco, quoi. Voilà.
Alors un grand artiste bien connu à Digne, mais pas qu'à Digne, bien sûr, et heureusement, vos œuvres voyagent. Quels sont vos projets pour cet été, par exemple?
Alors en ce moment, j'ai commencé une exposition qui a démarré en avril et qui va se terminer en septembre à Roussillon. Et c'est vrai que quand j'expose dans des lieux comme ça, j'essaye de m'inspirer du lieu, de m'imbiber du lieu. Et j'ai notamment réalisé des sculptures des personnages en terre cuite patinée avec les ocres de Roussillon. Et c'est pour ça que le lieu est dans un écrin qui s'y prête, quoi, finalement, puisque les gens vont visiter les carrières d'ocre et terminent leur périple dans la salle d'exposition où il y a mes œuvres, quoi. Mais en fait, c'est une exposition qui est collective. Et aujourd'hui, de plus en plus, j'essaye de faire des expositions collectives parce que on peut exposer plus longtemps et on n'a pas à gardienner pendant des mois et des mois le lieu. Donc on se partage en fait les heures de gardiennage puisqu'on est quatre artistes à exposer dans le même lieu. Voilà.
Donc là, c'est où ?
C'est donc à Roussillon, village Roussillon, le grand bâtiment, la grande salle d'exposition qui jouxte la mairie de Roussillon. Sur la place principale où il y a tous les cafés. Et c'est un lieu idéal parce que c'est un lieu qui est très, 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 très touristique. Il y a même des artistes qui vont acheter aussi leurs ocres pour faire leur propre toile. Voilà, les pigments aussi. J'ai rencontré justement, à ma grande surprise, dans la boutique où j'ai fait mon approvisionnement en ocre, un façadier qui fait justement ses propres enduits de façade à la chaux et il utilise des ocres pour colorer ses enduits lui-même, puisque finalement l'ocre est un produit minéral qui résiste à la lumière et aux ultraviolets. Donc une façade faite avec des ocres authentiques ne passe pas en fait avec la lumière. Elle vieillit bien en principe.
Et vous travaillez sur beaucoup de matériaux différents, vous êtes toujours avec des matériaux de récupération et des œuvres assez volumineuses.
De plus en plus des œuvres monumentales, puisque je réponds à des appels d'offres. Depuis qu'il y a eu la crise de Covid et que mon atelier a été déserté par les Dignois, je me suis dit, ben, changeons de registre. Vous le parliez vous-même, vous en parliez vous-même dans la chanson, il faut oser. Et je me suis mis à répondre à des appels d'offres culturelles qui sont mis en ligne par des collectivités. J'ai fait notamment la sculpture de la République pour la Tour de l'Horloge à Sisteron. J'ai fait une sculpture monumentale aussi pour la ville de la Seyne-sur-Mer qui fait 5 mètres de haut en lien avec l'écologie puisque j'ai utilisé que des matériaux de recyclage, les déchets qui viennent du port de la Seyne-sur-Mer pour faire cette œuvre, donc les matériaux zéro, le coût est zéro. Il n'y a que la main d'œuvre et le temps passé dessus qui fait que c'est une œuvre qui demande de l'énergie, quoi. Et là, je suis sur un projet d'étude pour réaliser un monument en hommage aux Harkis. Qui va être mise certainement entre Sisteron et La Reine. Je ne connais pas encore le lieu exact, mais on en est au stade des devis et d'études et de croquis. Et il faut savoir, quand on fait des œuvres monumentales comme ça, on peut être amené à faire 10 propositions avant qu'il y en ait une qui sorte du lot. Et puisque c'est le commandeur qui choisit au final l'œuvre qui sera faite aussi avec des matériaux de recyclage. Voilà.
À Digne, on a toujours sous les yeux, quand on passe devant les pompiers, cette œuvre monumentale aussi qui est extraordinaire, que vous avez fait en quelle année ?
Ça fait maintenant une dizaine d'années à peu près, hein, le temps passe vite. C'est vrai que cette œuvre, elle a secoué un peu les Dignois, elle a dérangé les Dignois d'un point de vue canon esthétique, parce que certains s'attendaient à ce que je fasse une œuvre figurative de mon registre classique en fait. Avec l'anatomie, des vrais personnages, etc., etc. Or là, j'ai utilisé aussi des matériaux de recyclage et j'explique qu'une œuvre, elle est faite quelque part pour être assimilée par le public. Il n'est pas forcé que l'œuvre plaise au début, mais elle peut devenir plaisante progressivement dans la tête des gens. Si vous regardez l'exemple de Beaubourg à Paris, à l'époque où il y a eu Beaubourg au niveau architectural, ça avait fait un scandale au niveau des Parisiens. Dites aux Parisiens aujourd'hui que vous allez raser Beaubourg. Voilà quoi. Donc l'œuvre, une œuvre n'est pas faite forcément pour faire l'unanimité. Et c'est vrai, quand on répond à des cahiers des charges précis et qu'on travaille dans un contexte précis qui est le deuil, c'est très difficile de concrétiser aussi l'œuvre avec des moyens modestes. Parce qu'il n'y a pas d'argent aujourd'hui pour les artistes. Hein. Personne ne m'aurait commandé ces œuvres qui aujourd'hui, si elles devaient être chiffrées, elles seraient à 80 000 euros, par exemple. Mais c'est des œuvres qui ont été faites à titre gracieux parce que mon fils est pompier. Et je me vois mal faire en fait, du commerce sur tout ce qui est religieux et tout ce qui est commémoratif. En général, moi, j'aime bien faire don de mon travail quand ce sont ce genre de sujets que j'aborde dans mon métier, quoi. C'est pas des commandes pour le commerce.
Et cette sculpture est vraiment très touchante, très bouleversante. On peut pas rester insensible. Il y a une grande force qui émane de ces deux soldats, de deux pompiers qui ont été tués. Donc
tout à fait. Et en fait, quand on regarde bien, ils sont sur une seule tige. Il n'y a pas les deux jambes. Je vais vous donner l'impression, en fait, comme s'ils étaient disparus au niveau du sol et qu'ils renaissaient vers le ciel. Mais en fait, ils sont juchés en même temps comme des sentinelles qui surveillent la ville en même temps, puisque le rôle aussi des pompiers, c'est aussi bien les biens, les personnes et les animaux à qui on porte secours aujourd'hui. Et ces deux statues sont orientées vers la chapelle du Cousson, où c'est le symbole de l'archange Saint-Michel qui terrasse le feu et le dragon, quoi. Donc il y a tout un travail qui a été fait de manière collective avec les familles en fait. Et c'est vrai que je ne sais même pas si j'aurais envie de refaire ce genre d'expérience parce que c'est très délicat de convaincre les familles elles-mêmes dans la représentation de ce deuil, dans la mesure où on a voulu aussi que ces œuvres soient intemporelles pour tous les pompiers en fait, en général. L'ensemble des pompiers... du monde même, hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas de visage dedans, il n'y a pas de corps, tout est vide en fait, tout est creux. Et j'ai utilisé des lits médicalisés que m'ont offert la famille Comte, la pharmacie. Il faut savoir que les lits médicalisés aujourd'hui en France, si au bout de 3 ans, même s'ils sont neufs, ils ne sont pas utilisés, ils ne sont plus aux normes, on les jette. C'est quand même du gaspillage de matériaux. Et moi, je pousse justement les élèves des Beaux-Arts à aller de plus en plus vers ce genre de démarche où le matériau est pas cher et on se surpasse encore plus parce qu'on n'a pas le souci financier d'acheter la matière première.
Est-ce qu'on peut revenir aussi sur ces statues qui sont sous la mer ?
Alors ça, c'est oui, le premier musée subaquatique qui est situé dans l'Anse des Catalans à Marseille, là où il y a le cercle des nageurs. Et en fait, ça a été un combat dans la mesure où il y a des associations qui se sont opposées au projet, comme d'habitude, hein, puisque soi-disant nos projets allaient polluer la mer. Mais on s'est quand même bien arrangé de faire des sculptures dans des matériaux nobles, des matériaux qui servent de récifs artificiels pour les poissons, qui sont non polluants en fait. Hein. Donc il y a une dizaine d'artistes qui a été sélectionnée. Moi j'ai envoyé mon dossier aussi, c'est pareil. Hein. Ça a été inauguré en juin avant le premier confinement de cette fameuse crise sanitaire. Et justement, ça m'a permis de travailler chez moi des pièces un peu plus exceptionnelles puisque je n'avais plus de visite de public. Donc, je n'étais pas dérangé, en fait. Et donc, je pouvais aller au-delà de ma capacité au niveau de la concentration sur des œuvres monumentales, etc. Et ils ont été faits en ciment écologique dans lequel on mélange du lichen en poudre. Et ce lichen, une fois que les œuvres sont immergées dans l'eau, le lichen va pourrir en fait. Il va laisser des petites porosités, des petites cavités qui font que justement c'est par rapport à ces cavités que les algues, les animaux marins vont s'accrocher, le plancton, le corail s'il y en a. Mais j'ai honte, je n'ai pas encore eu la chance de plonger pour aller les découvrir.